Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h passé de 4 minutes sur Transistor et vous nous excuserez pour ce léger retard lié à quelques petits soucis en régie purement indépendants de notre volonté. Non, la colère ne transparaît pas dans mes propos. Bref, l'amplifié, c'est parti. Toute l'équipe, ou presque, est réunie ce soir pour retrouver toute l'actualité et puis vous la présenter, mixer, égaliser, monter et bien sûr amplifier. Alors après un petit tour du côté des infos, nous sauterons la revue de presse cette semaine puisque Marie est quelque part à Milan plutôt que d'être dans ce studio, allez savoir pourquoi. Nous passerons par un petit décortiquage, nous passerons par un édito économique, puis nous prendrons rapidement les pieds dans un tapis ferroviaire cette semaine. Ensuite, il sera l'heure de passer à la culture avec Sarah et Léa. Puis après un petit passage par les sciences, par le sport, pardon, on en viendra aux sciences donc, et on se quittera sur une petite suggestion d'écoute, mais tout de suite il est 20h05 sur Transistor et c'est l'heure de retrouver le journal. Bonsoir Maë, bonsoir François-René.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Le Parti Socialiste se la joue Survivor. Ce soir, les quelques 102 000 militants...
Ça fait beaucoup pour le Parti Socialiste,
ah oui,
quand
c'est
même.
Ça, mince. Militants du parti se sont appelés à venir voter pour l'un des 4 textes d'orientation proposés. Ils éliront leur premier secrétaire le 29 mars.
Le pessimisme est latent parmi les militants qui ont du mal à envisager l'avenir du PS après le coup porté par les dernières élections présidentielles et le score historiquement bas enregistré par Benoît Hamon, lequel a d'ailleurs entre-temps quitté le parti.
Les 4 candidats, Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel, s'accrochent encore cependant. On s'interroge dans les coulisses sur le taux probable de participation à ces 2 votes, on cite du Lénine ou, comme le député Jérôme Lambert, on s'émeut de la situation version historien. J'ai l'impression de vivre le dernier congrès de la SFIO à la fin des années 1960. Ça s'est passé samedi soir à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Certains habitants des environs y font régulièrement des maraudes, à Montgenèvre donc, ainsi qu'au col de l'Échelle, pour venir en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière. Rappelons-le, c'est l'hiver, on est à presque 2000 mètres d'altitude.
Samedi soir, donc, c'est une famille avec 2 jeunes enfants sur laquelle tombent 2 maraudeurs.
La mère, enceinte de 8 mois et demi, est frigorifiée et épuisée. Au vu de son état, il décide de la conduire à l'hôpital de Briançon. Juste avant l'entrée dans la ville, ils sont arrêtés par la police qui les retiennent alors et les soupçonne d'activité de passeurs. À l'arrière de la voiture, les contractions de la mère de famille s'accélèrent.
La police consent finalement à appeler les pompiers, lesquels mettent environ 1 heure à arriver puis à conduire leur patiente à l'hôpital.
Là, alors qu'elle accouche par césarienne, la police raccompagne son mari et ses 2 jeunes enfants en Italie. Ce n'est qu'au petit matin que l'hôpital finit par obtenir de la PAF, la police aux frontières, le rapatriement de la famille auprès de la mère et de son nouveau-né. Mardi s'est ouvert le procès de 8 militants d'extrême gauche. On les soupçonne d'avoir saboté en 2008 une ligne TGV. Pour rappel, l'affaire commence la nuit du vendredi 7 et 8 novembre 2008 quand plusieurs lignes TGV disjonctent, provoquant le retard de plus de 150 trains et bloquant près de 20 000 personnes dans les gares des cinémas. Les chiffres.
102 000, non. Quelques jours plus tard, une série d'interpellations a lieu, notamment à Tarnac, en Corrèze.
9 personnes sont alors mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Mais l'affaire traîne en longueur. Courant 2010 et 2012, l'enquête policière est remise en cause. La défense souligne des irrégularités et des procès-verbaux mensongers. La justice est saisie et effectivement de nombreuses zones d'ombre apparaissent. On apprend que les suspects étaient sous surveillance avant que l'affaire ne commence suite à des rassemblements anarchistes sur Paris et l'achat hautement révélateur de dissidence politique d'une ferme au fin fond de la Corrèze.
Les années qui suivent, 8 des 9 suspects seront renvoyés en correctionnel, mais on écarte cette fois-ci la qualification de terroriste.
C'est donc pour association de malfaiteurs que Julien Coupa, Yildune Lévy, Elsa Hawk, Bertrand Deveau ont commencé à être jugés ce mardi. Affaire à suivre.
Le président américain Donald Trump a examiné mardi 13 mars à San Diego les 8 prototypes différents du mur qu'il veut construire le long de la frontière avec le Mexique afin de freiner l'immigration clandestine. C'était, on s'en souvient, l'une de ses principales promesses de campagne et parmi les plus controversées.
« Je construirai un grand mur et croyez-moi, je construis les murs mieux que personne. »
better than ever. Malgré cette visite hautement symbolique, rien n'indique que le magnifique mur annoncé sorte de terre. Plus d'un an après son arrivée au pouvoir, le Congrès n'a pas débloqué le moindre budget pour une construction qui pourrait coûter jusqu'à 20 milliards de dollars, soit 16,2 milliards d'euros, et contre laquelle nombre d'élus démocrates sont vent debout. États-Unis toujours, qui ont annoncé jeudi 15 mars une série de sanctions contre la Russie pour son ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et pour plusieurs cyberattaques. 5 entités et 19 individus sont visés et sont désormais sanctionnés par un gel de leurs avoirs et par l'interdiction pour des sociétés américaines de faire des transactions avec elles. L'annonce de ces sanctions intervient alors que Londres, Paris, Berlin et Washington ont accusé Moscou d'être responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia sur le sol britannique.
Et on termine justement par cette affaire d'empoisonnement qui fleure bon la guerre froide.
Oui, donc cet homme, Sergei Skripal, a exercé son métier comme agent double pour les services de renseignement britanniques durant les années 90 et au début des années 2000. En décembre 2004, il est arrêté par le service fédéral de sécurité de Russie. Il est jugé en 2006, reconnu coupable de haute trahison et condamné à 13 ans de prison. Mais il s'installe au Royaume-Uni en 2010 après un échange de prisonniers consenti par les Russes avec les Occidentaux. Le 4 mars dernier, Skripal et sa fille, qui étaient venues en visite de Moscou, ont été empoisonnés dans un restaurant italien avec sans doute du fentanyl, un opiacé 40 fois plus puissant que l'héroïne, qui peut provoquer la mort à raison de seulement 2 mg. Donc empoisonné à Londres, je précise. Depuis, il reste dans un état critique à l'hôpital du district de Salisbury. L'intoxication est classée comme une tentative de meurtre. Le 12 mars, la première ministre Theresa May juge très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Skripal et de sa fille. Le Royaume-Uni a annoncé hier avoir rompu ses relations diplomatiques avec Moscou, d'où l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire.
Et on passe au sujet long.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit. C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Aujourd'hui, les retraités étaient dans la rue pour contester les atteintes macronesques portées à leur pouvoir d'achat. Il y a quelques semaines, c'était les universitaires, les étudiants et les lycéens qui manifestaient contre les réformes dans l'enseignement supérieur et secondaire. Jeudi prochain, le 22 mars, c'est la fonction publique qui sera en grève, grève à laquelle se joindront notamment les cheminots.
Mais que se passe-t-il?
On peut revenir rapidement sur les réformes qui touchent tour à tour différents services publics et prestations sociales. On va se contenter de vous donner quelques faits mis innocemment bout à bout.
Alors, services hospitaliers et maisons de retraite.
Ici, ce sont les méthodes managériales de gestion et le manque drastique de moyens qui sont remis en cause. Les personnels médicaux sont en colère. Ils dénoncent la pression sans cesse croissante qu'ils subissent, leur incapacité avec les moyens qui leur sont accordés à prendre correctement en charge leurs patients. Fin 2017, le suicide d'un chirurgien en salle d'opération au CHU de Grenoble relançait le débat. En février, c'était la publication d'un décret autorisant pour la première fois des licenciements dans l'hôpital public qui faisait parler de lui.
Les retraités maintenant.
Comme on le disait au début de ce sujet long, ils étaient dans la rue aujourd'hui pour protester contre la hausse de 1,7 point du CSG sur les pensions retraites. L'augmentation de cet impôt de contribution sociale risquerait d'affecter de manière assez importante le pouvoir d'achat des anciens. On dénonce ici le fait que la baisse de la taxe d'habitation annoncée par le gouvernement ne viendra pas véritablement équilibrer le manque à gagner dû à la hausse du CSG, comme annoncé par le gouvernement.
Et quid des universités et des lycéens ?
Parcoursup, réforme Vidal, sélection IDEX, les causes de protestation ne manquent pas. Sont dénoncés un affaiblissement du baccalauréat, la mise en place d'une sélection insidieuse, porteuse d'inégalités sociales dans les universités, un enseignement supérieur à deux vitesses avec des pôles dits d'excellence, une hausse des frais d'inscription, une restriction dans l'orientation des étudiants.
Et le mouvement touche aussi les écoles primaires.
On proteste contre la fermeture de 200 à 300 classes, voire plus selon les syndicats. Contrepartie à l'ouverture de classes dans les zones d'éducation prioritaire, c'était une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa campagne. Les enseignants se mobilisent, notamment au sud de Tours, où le président et Jean-Michel Blanquer se sont rendus aujourd'hui pour tenter d'apaiser les tensions.
et bien sûr la SNCF.
Et oui, le gouvernement a fait savoir sa volonté de réformer la SNCF afin de la rendre plus efficace et surtout moins coûteuse pour les finances publiques. Il a décidé notamment de s'attaquer au statut des cheminots. Mardi, un projet de loi permettant le recours à des ordonnances pour réformer la SNCF a été présenté au Conseil des ministres. Les syndicats y sont fortement opposés et menacent de soutenir une grève reconductible et dure.
Et on peut ajouter à ces quelques points des mots ou groupes de mots lâchés au hasard.
Oui, comme CAP 2022, plan de départ volontaire dans la fonction publique, banalisation des contractuels. Alors quoi ? Comme l'explique Sabine Fortino, sociologue chercheuse au CNRS, depuis le début des années 1990, la question de la modernisation des administrations publiques est explicitement posée, dans l'objectif de rendre les organisations et les services de l'État plus efficaces, mieux adaptés ou réactifs à l'évolution de leurs missions, plus proches des besoins des usagers, lesquels furent d'ailleurs souvent renommés « clients ». L'ensemble des processus de réorganisation ont une référence explicite ou implicite au modèle de l'entreprise. On y retrouve aisément la trace des diverses orientations, ressources humaines de l'entreprise privée, colorées des spécificités de l'action publique, mais clairement référées à l'efficacité prêtée au modèle du marché. Or, l'introduction des méthodes de gestion issues du secteur privé au sein des services publics heurte de plein fouet l'attachement des salariés aux services publics et à ses valeurs. Reporting permanent, exigence de résultats appréciés sur le seul prisme économique ou commercial et au détriment des missions sociales des agents publics, évaluation quantitative, voilà ce qui fait désormais le quotidien d'agents publics. Ce n'est pas le changement en soi qui pose problème aux salariés, ce sont bien davantage les dimensions idéologiques et sociétales dont il est porteur, ainsi que le nouveau rapport au travail qu'il suppose. Voilà, c'est tout pour le sujet long aujourd'hui. Si ces questions vous intéressent, je vous invite à lire l'article de Sabine Fortino que j'ai cité, disponible sur Cairn, intitulé « Quand les logiques du privé investissent le service public, déstabilisation des collectifs et reflux de la participation ».
Merci beaucoup Maë et François-René pour ce journal et ce petit retour sur des titres pas forcément très réjouissants en ce moment. On s'amuse bien de ce que Donald ait un petit peu de mal dans ses travaux de maçonnerie.
Oui, c'est très drôle quand on le voit se promener devant les 8 types de murs.
Mais pendant ce temps, notre gouvernement continue à laisser des femmes accoucher au plein milieu des Alpes. Tout va très bien, Madame la Marquise, et on enchaîne immédiatement, et bien toujours avec toi, François-René, pour un petit décortiquage.
Décortiquage.
Voilà, décortique. Si c'est pas assez bien cassé, ben je finis avec mon couteau.
Comment décortiquer ?
Comment décortiquer ?
Et nous allons présenter des méthodes simples, justement, pour le décortiquer.
Alors, de quoi nous parles-tu ce soir, François-René ?
Alors, il y a 2 semaines, je vous parlais du patriarcat qui était passé de l'anthropologie au féminisme en passant par le marxisme. Et cette semaine, je vous parle du matriarcat qui vient également de l'anthropologie de la fin du 19e. Henry Lewis Morgan, l'inventeur du patriarcat...
La grande plaie de cette société est le matriarcat.
Oui, on en a déjà parlé, tu sais.
Oui, bah, Marie n'est pas ici, on s'offre toutes les libertés ce soir.
Henry Lewis Morgan, l'inventeur du patriarcat, en tout cas son premier théoricien, n'est pas le seul à cette époque à tenter de retracer l'évolution de la famille depuis l'Antiquité et au-delà. Un Suisse, Johann Barofen, publie à Stuttgart en 1861 un livre intitulé « Das Mutterrecht », c'est-à-dire « Le droit de la mère ». Il y fait l'hypothèse que le patriarcat actuel aurait été précédé par un matriarcat ancestral dont certaines figures de la mythologie, notamment de la mythologie grecque, les Amazones, Déméter, Aphrodite, seraient les vestiges. On passe selon lui d'une civilisation placée sous le signe de la lune à une civilisation placée sous le signe du soleil. D'ailleurs, c'est à partir de cette théorie que Nietzsche, qui rencontre plusieurs fois Barofen en Suisse, construira dans sa Naissance de la tragédie son opposition entre une civilisation dionysiaque, donc féminine, et une civilisation apollinienne, plus masculine, qui est censée lui avoir succédé historiquement. D'autres grands noms ont cru à ce matriarcat originel, notamment James Frazer, l'auteur du Rameau d'or, qui dans ses 12 volumes publiés entre 1911 et 1915, qui constitue l'œuvre majeure de mythologie comparée du début du XXe siècle, eh bien, il voit aussi dans certains mythes les vestiges d'une époque antérieure où les femmes dominaient la société. Alors aujourd'hui, la théorie du matriarcat a été remise en cause sur 2 points qui réduisent à peu près à rien la théorie de Barofen. Premier point, Les mythes en question ne sont pas des vestiges d'époques antérieures, mais appartiennent à la catégorie de ce que l'historien Pierre Vidal-Naquet appelle des utopies négatives, c'est-à-dire des mythes conçus par les Grecs justement pour dénoncer ce qui serait un renversement des valeurs, renversement qui aboutirait à l'anarchie et à la violence s'il se produisait. Deuxième point, il importe de distinguer le matriarcat, qui en tant que domination structurelle des femmes sur les hommes n'a vraisemblablement jamais existé, et le système matrilinéaire qui, lui, existe bien. Dans ce type de système, le patrimoine et le nom se transmettent alors par la mère, mais cela n'exclut pas la domination masculine. Ici, l'autorité masculine est représentée moins par le mari, qui ne transmet pas le patrimoine, que par le frère, qui a autorité sur sa sœur et sur les enfants de sa sœur, s'occupant notamment de leur éducation. Le système matrilinéaire se retrouve par exemple chez les Touaregs, les Iroquois ou les Trobriandais. Notons pour terminer que les familles juives conservent également une forme de transmission matrilinéaire, puisque l'héritage religieux se transmet par la mère. Comme on sait, les enfants seront donc considérés comme juifs uniquement si la mère l'est.
Merci beaucoup François-René pour cette petite précision. Alors tu vas être coincé pour la prochaine fois, il va falloir
Oui, le pouvoir des enfants.
Il va falloir trouver quelque chose. Mais en tout cas, merci pour ce décortiquage. Il est 20h20 sur Transistor. Et on te retrouve, Robin. Ça fait très bizarre de passer si vite à l'économie sans la revue de presse. Mais promis, Marie revient très vite. Alors, de quoi nous parles-tu, Robin? Je parie que tu as un chiffre.
Mais oui, mais il est tout petit aujourd'hui, puisque c'est zéro.
Zéro.
Et zéro, c'est le montant des profits engendrés par l'entreprise Spotify depuis sa création. Donc zéro, c'est pas beaucoup, mais rassurez-vous, c'est pas très étonnant ni même très inquiétant, puisque beaucoup de startups du numérique sont passées par une longue période où elles n'ont pas fait du tout de profit. Amazon, par exemple, n'a commencé à faire des profits qu'en 2001, soit 7 ans après sa création. En fait, il faut avoir en tête qu'il y a une différence de nature entre ce qu'on appelle le chiffre d'affaires ou recette et le profit lui-même. Le chiffre d'affaires correspond à ce que l'on gagne en brut par les ventes, c'est-à-dire tout l'argent qui rentre dans les caisses. Pour Spotify, il y a deux sources pour avoir un revenu, des recettes, les gens qui s'abonnent, donc 10 euros par mois, ou les revenus par la publicité qui sont disponibles quand on a une version gratuite de Spotify. Donc ça, c'est les recettes. Le profit, lui, c'est la différence entre ces recettes ou chiffres d'affaires et les coûts nécessaires pour produire et administrer l'entreprise. Dans le cas de Spotify, la plupart des coûts sont en fait des royalties que Spotify doit payer aux ayants droit des musiques qu'il diffuse. En 2017, par exemple, Spotify a fait 4,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. Mais pour chaque dollar reçu dans ce chiffre d'affaires, il a dû payer 79 centimes aux ayants droit. Ce qui ne fait que, entre guillemets, 861 millions pour Spotify, ce qui peut sembler beaucoup, mais en fait ne suffit pas à satisfaire entièrement les frais de gestion d'une entreprise de cette taille.
Pauvre Spotify exploité par les maisons de disques,
mais
décidément.
Oui. Effectivement, mais c'est moins une exploitation, à vrai dire, Rémi, qu'une stratégie, parce que Spotify aime...
Il faut pas me mettre dans les relances, alors.
Spotify aime se faire dominer. Il choisit, en fait, de se concentrer sur les chiffres d'affaires pendant un temps et de délaisser son profit. Dans le monde d'entreprise, on voit une différence entre ce qu'on appelle la stratégie marketing d'un côté, dont le but est exclusivement d'augmenter sa part de marché et donc son chiffre d'affaires sans se poser la question des coûts, et d'un autre côté, le business model qui cherche à maximiser le profit et en tenant compte notamment des coûts, puisqu'on peut maximiser le profit donc soit en augmentant les recettes, soit en diminuant les coûts. Et en termes de stratégie marketing, Spotify fait très fort puisqu'il a réussi à s'imposer comme le leader de la musique en streaming et à développer de nouveaux usages chez le consommateur. Les ventes de CD se font de plus en plus rares et même le téléchargement légal comme illégal a baissé pour la musique. À mon avis, ça marche bien pour Spotify parce que il offre la possibilité d'écouter n'importe quoi ou presque en 3 tapotements sur son téléphone, réduisant ainsi drastiquement ce qu'on appelle en économie les coûts de prospection du consommateur. Ces coûts de prospection, ce ne sont pas des vrais coûts, ça correspond en fait à l'effort demandé par quelqu'un pour aller chercher un produit qu'il veut acheter. et notamment le téléchargement illégal a de hauts coûts de prospection parce que c'est assez chiant en fait d'aller télécharger quelque chose, et on peut préférer se faciliter la vie en souscrivant directement à Spotify et n'avoir pas à aller sur The Pirate Bay quand il n'est pas descendu.
Ne pas du tout faire de publicité, promis, nous n'avons pas de partenariat puisqu'on ne parle pas de publicité comme le disait le médiateur de Radio France tout à l'heure. Bref, malgré leur grand succès en termes de stratégie marketing, Spotify doit reverser une grande partie donc de ses recettes à l'industrie du disque.
Oui, c'est ce que je disais. Je t'ai fait des relances de merde aujourd'hui. Hein.
Oui, alors je comprends pas cette phrase, ça va pas du tout.
Donc, Spotify efficace en termes de stratégie marketing, et pourtant ils ne font pas de profit, c'est parce que ils payent beaucoup les industries du disque. En effet, ils reversent la plupart de leurs recettes à la production musicale, et ce n'est pas parce qu'en soi ça coûte cher, mais c'est plutôt parce qu'il y a un rapport de pouvoir déséquilibré entre Spotify et les géants de l'industrie du disque. En effet, celle-ci se divise en gros en trois grandes compagnies qui sont Universal, Warner Music et Sony Music, et dans la négociation, elles sont beaucoup plus fortes parce qu'elles peuvent exercer une certaine pression. En effet, si la Warner, par exemple, décide de se retirer de l'offre de Spotify, Spotify va perdre énormément de clients puisque aujourd'hui beaucoup n'acceptent pas de ne pas trouver certains morceaux sur leur application favorite. Et de son côté, Spotify, lui, ne peut pas exercer une telle pression parce que si l'application apporte en effet une visibilité à l'industrie du disque, d'autres supports de diffusion restent suffisamment importants pour que l'on puisse s'en passer. Et même de nouveaux supports de diffusion se développent. Facebook, par exemple, est en train d'acheter plein de droits auprès de l'industrie musicale pour que on puisse notamment mettre les musiques qu'on veut dans nos vidéos et mettre enfin Despacito tranquillement sur nos vidéos de vacances.
Mais alors, quand est-ce que Spotify va faire du profit, Robin ?
Eh bien, c'est bien là la question et ça devient urgent puisque au début du mois d'avril, Spotify va faire son entrée en bourse. Ce qui veut dire que l'entreprise va avoir des actionnaires qui vont exiger, point sur la table, du profit. Le responsable de cette entrée en bourse, c'est Barry McCarthy, qui a bien préparé son terrain, mais qui explique notamment que Spotify va réussir petit à petit à peser plus dans la négociation et baisser ses coûts. Son idée est que Spotify sera bientôt utilisé par suffisamment de gens pour que ça pose un vrai problème pour les maisons de disques de s'en retirer. Mais tout le monde n'est pas vraiment certain que ça marche effectivement. Ce même Barry McCarthy avait réussi à faire de l'entrée en bourse de Netflix un succès en 2002, mais c'était surtout parce que Netflix avait baissé ses coûts en se mettant à produire ses propres contenus. Et est-ce qu'une telle évolution est possible pour Spotify ? C'est peut-être pas tout à fait pareil dans le monde des séries et dans le monde de la musique. Est-ce qu'on voit Spotify devenir une maison de disques ? Ce n'est pas certain. Une autre solution mentionnée par certains serait que Spotify court-circuite les maisons de disques en accueillant notamment des créateurs autonomes directement, un peu comme YouTube, et c'est une évolution qui me plairait pas mal à moi.
Merci beaucoup Robin pour cet édito qui scrute à nouveau de très très près l'actualité de l'économie numérique, car à Transistor nous sommes toujours à la pointe de l'actualité. Transistor, où il est 20h27 et avant de passer à la culture, eh bien prenons rapidement le train. Celles et ceux qui lisent le Maine Libre n'ignorent pas la terrible mésaventure dont fut victime le 21 février dernier la députée de la Sarthe, Marietta Caramanli, survivante socialiste au pays de la rillette où pourtant, comme ailleurs, la rose perdit bien des épines en juin dernier. Madame Caramanli, qui ce jour-là se rendait au Mans, comme le font parfois les députés ou les gens qui n'ont rien de mieux à faire, et parfois même ceux qui veulent voir le Mans Lisieux en 8e de finale de la Coupe de France, mais je laisse ça à François René. Las, elle prit un TGV. Les TGV, savez-vous, sont capricieux et peuvent parfois décider de s'arrêter lorsqu'ils aperçoivent des chèvres sur le ballast en train de brouter les herbes folles entre les rails, plutôt que de passer très vite et d'en faire du bœuf bourguignon pour la voiture bar située en voiture 4 au centre de la rame. Bref, les chèvres bloquent le passage et après moult négociations ayant abouti à quelques revalorisations de la grille indiciaire, le train s'ébranle puis tombe en panne et voilà que le trajet de notre député s'arrête là. Peut-être faudrait-il que je précise que Madame Caramanli se rendait à une réunion avec le collectif de défense des abonnés de la ligne Atlantique pour évoquer les retards des TGV. À la lumière de cette expérience, peut-on déduire que les pannes de TGV ont une volonté propre qui les pousse à survenir précisément pour contrer ceux qui les pourfendent ? Je ne crois pas. En revanche, sans doute pourrait-on en conclure que la SNCF est gérée par des chèvres. Et appeler de nos voeux un réseau rénové, efficace, ce qui serait possible si l'on n'était pas justement en train de s'attaquer à ceux qui y travaillent, lesquels se défendront jeudi prochain, et rien n'est perdu si quelques chèvres peuvent mettre un TGV KO, alors allons-y, offrons-nous un sabotage grandiose, que ce jeudi 22 mars soit le point d'orgue du sabotage plus discret que j'ai eu grand plaisir à m'offrir cette année.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Voilà, et si j'arrive à parler pendant 4 secondes, voilà, top, c'est parfait. Il est 20h30 sur Transistor, pile à l'heure, on passe à la culture. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir Rémi. Alors Rémi, on parle beaucoup de la SNCF ce soir. Eh ben, j'ai trouvé la coupable, c'est Sarah. Sarah, elle ruine la SNCF à coup de TGV Max, parce que là, elle va nous emmener à Bordeaux, à Paris et à Strasbourg. Et ensuite, on passera à ma chronique lyonnaise. Alors Sarah, on commence par l'Ouest. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à voir de l'orange à Bordeaux ?
Alors, l'orange, désessante le mariait au bleu. Un professeur de philo en avait ses chaussettes teintes. Mais qu'en est-il à Bordeaux ? Laissez-moi vous conter les déambulations de la jeune Sarah, qui, non, ne ruine pas la SNCF à coup de TGV Max, quand même. L'as du centre de la Terre, vous comprenez parce que vous êtes renseigné que c'est une référence au décor de Chute, qu'il faut absolument aller voir en Cantor très bientôt. Donc l'as du centre de la Terre.
Et dans laquelle tu ne joues pas du tout.
Non, je n'y joue pas du tout. Et hélas du centre de la Terre, je me mise à touiller mon café, l'œil égaré dans les méandres du passé. Les cuillères, les souvenirs, ça vous parle maintenant, puisque j'avais parlé la semaine dernière de petites cuillères volées. Et je me pris à regretter Bordeaux et mon ami Nounou, qui ne s'appelle pas Nounou, et qui, au lieu de m'écouter le jeudi soir, bûcheronne son droit. Je voulus parler du sud-ouest donc, parce qu'elle habite à Bordeaux. Je n'en parle jamais au JRA, alors je me suis mise à chercher des expositions sympathiques dans le coin, au CAPC, le musée d'art contemporain, au Beaux-Arts. Qu'est-ce que j'allais choisir ? Les petites galeries souvent trop éphémères ? Mon œil désormais aux aguets repéra aussitôt l'exposition à voir, l'exposition divine, qui fera que certains ou certaines, il n'y a que des chibolettes dans mes propos, se déplaceront illico quasi presto à Bordeaux. Les Tchèques des années 20 et 30 se sont installés dans le MAD, musée d'art décoratif, ce beau bâtiment situé en face d'un cabinet de curiosités dont je possède encore la carte tant il est curieux.
Et de digression en enthousiasme, tu as filé Sarah loin du orange. Tu nous expliques ton étrange association entre le MAD et le orange ?
Pardon, les digressions sans orange, c'est comme le film, c'est mécanique. J'y viens. Christophe Jacquet, en charge du graphisme du livret d'exposition, a voulu privilégier deux couleurs, dont l'une est taboue à Transistor. Je cite « La couleur orange de l'urgence et de la pensée, et la couleur rose du plaisir ». Il avait en tête la phrase de Karel Tege, ou Teg, j'ai trop du mal avec la prononciation de ces noms tchèques, mais c'est le tempérament hilarant qui prime. Et je crois bien que dans cette expo nommée « L'image livre, éditeur et artiste de l'avant-garde tchèque 1920-1930, collection de l'historien du graphisme Pierre Ponant », vous allez en voir de toutes les couleurs.
Et c'est qui est exposé là-bas, Sarah ?
C'est Prague. Sans mauvais jeu de mots, vous entrez dans l'univers d'une Prague avant-garde où les surréalistes français inspirent les tchèques et vice-versa probablement. Alors non, vous n'entendez pas réellement le bruit des ivrognes qui font le grand slalom, c'est-à-dire la tournée des bars de manière plus élégante. Vous ne voyez pas non plus le quartier des anciens alchimistes où a vécu un monsieur qui a rapiécé le lapin de ses enfants pour l'utiliser dans un film, bien sûr. Mais pour votre grand régal, Pierre Ponant a réuni sa collection de livres et de tableaux de l'époque. Parlons des livres. L'édition, le matériau, ne participe-t-elle pas de l'atmosphère du livre ? Le design, en gros, c'est aussi ce qui construit la diégèse. Enfin, quelque chose comme ça, quoi, j'espère. Promis, j'approfondis, et je vous en dis plus forcément d'ici quelques temps, car l'expo se déroule jusqu'au 6 mai et que Bordeaux me manque. Nota bene, je tiens à préciser qu'il y a également des livres des frères Čapek, Josef et Karel, les inventeurs du terme « robot », et d'autres artistes, y compris d'autres contrées géographiques.
Et on poursuit cet élan vers l'Est. Sarah, qu'est-ce qui se passe à Paris?
On dirait un sketch de cartoon à la Tom et Jerry. Bordeaux se tourne vers l'Est. En même temps, je comprends que l'orange tchèque soit moins agressif que l'orange présidentiel du Far West, tandis que Paris se tourne vers l'Est aussi. Sacré running gag. Du mardi 20 mars au dimanche 25 mars, une exposition sur les affiches des films de Tarkovsky sera lancée à Paris. C'est grâce à Michael Lelouch et Potemkin Film que les grands fans de ce réalisateur russe pourront naviguer de pays en pays.
De pays en pays, mais Tarkovsky, donc c'est du cinéma russe ?
Oui, oui, oui. Mais le principe, en fait, est de montrer des affiches internationales. Assez indicateur, je pense, sur la réception qu'on peut avoir des œuvres d'un artiste, ou bien sur les courants en vogue dans certaines contrées, à une époque donnée. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Tarkovsky, mais vous avez sans doute une représentation particulière de la couverture de Vertigo.
Oh oui.
Eh bien, sachez, oui, je sais que tu en as une, Eva, parce qu'elle est par terre, à côté de ta cheminée.
Et nous avons tous vu.
Eh bien, sachez qu'elle diffère complètement de la version polonaise de Jan Lenica, un talentueux surréaliste et affichiste. Et si vous voulez comparer, allez voir sur internet, parce que bah, là je peux pas vous montrer, et vous découvrirez les travaux de Lenica par la même occasion. Je vous assure, ça vaut le coup d'œil.
Oui, des affiches internationales, c'est pas bête, d'autant que Tarkovsky a touché un public d'un peu tous les continents.
Oui, 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 exactement. Et pour en revenir à Tarkovsky, il y a eu une rétrospective sur sa filmographie en début d'année scolaire, où il faisait encore bon de traîner la nuit du côté du premier film. C'est donc quelqu'un de plutôt important, et je ne doute pas qu'au studio l'on m'approuve là-dessus. D'un point de vue esthétique comme réflexif, je vous enjoins vivement à découvrir ou redécouvrir son art. Pour le coup, il a un regard particulier sur le monde, tout à fait unique et bouleversant. Scott McCloud définit l'artiste par ce genre de regard original, souvent marginal. Et ce n'est pas le seul. Combien d'autres auteurs n'ont pas vu un visionnaire en chaque artiste? Bon, je ne fais pas mon singe savant. McCloud, c'était simplement un clin d'œil, histoire de réveiller les filles en BD, si toutefois elles écoutent notre merveilleux journal. En ce qui concerne Tarkovsky, entre son goût pour l'eau, qui se traduit par des murs boursouflés par la moisissure et l'étrangeté de ses personnages, vous ne pourrez que percevoir le monde via une inhabituelle caméra. Et si vous connaissez déjà, bah, cette exposition à Paris serait l'occasion d'étudier les différents regards que l'on porte sur son œuvre, l'inspiration qu'il suscite chez certains.
Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous livrer ?
Oui, la description qu'en fait Lelouch lui-même en guise de présentation de l'événement qui a lieu à l'espace Beaurepaire, 28 rue Beaurepaire. Donc là, je cite un enfant qui arrose un arbre, une femme assise sur une barrière, des dunes de sable, une maison qui brûle, un verre qui tombe, un chant qui ondule, une bougie qui ne doit pas s'éteindre. Autant de fragments d'un paysage mental et émotionnel qui nous accompagne longtemps après la fin des films d'Andrei Tarkovsky. À l'instar de son stalker, le cinéaste est un passeur qui nous emmène loin, hors des sentiers battus du cinéma, vers une zone qui ne ressemble à rien de connu. Le temps semble s'y écouler différemment, s'étirer comme dans un rêve éveillé. À l'issue d'un périple exigeant mais envoûtant, comme le professeur et l'écrivain devant la chambre, il nous tend un miroir dans lequel nous contemplons nos failles, nos peurs, notre âme. L'affiche dans le miroir, qui porte bien son nom au vu des thématiques abordées par Tarkovsky, c'est donc la semaine prochaine, quand certains seront encore sur leur mémoire.
Surtout que certains n'auront pas encore l'excuse
ou
des partiels.
Ou sur leur copie d'agrès.
Ah oui.
Allez savoir. Alors avant de quitter Beaurepaire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette exposition a lieu ?
Oui, notre Deus Ex Machina jaillit des tréfonds de Potemkin Films, qui profite de la sortie en coffret Blu-ray des versions restaurées de Tarkovsky.
Wow.
Quel est ce cuirassé ? Un mot dessus quand même. C'est une société cinématographique qui gère aussi une boutique de DVD depuis 2006 et une édition de DVD ou de distribution de films depuis 2013. Et outre leurs références alléchantes, notons que Potemkin s'est associé en 2008 avec Agnès B. pour des éditions de DVD en commun. Agnès B. dont il y a eu une exposition cette année à Paris, 20 ans de mauvais genre avec Agnès B. près du canal Saint-Martin. J'en ai parlé et je ne sais même pas si quelqu'un s'en souvient. Enfin bon, si jamais cela vous intéresse, Potemkin a un site web plus facile à trouver que les liens de téléchargement illégal. Vous y verrez toute l'actualité d'un cinéma d'art et les offres de la boutique. Wouhou, joie!
Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous annoncer, Sarah?
Oui, avant de nous quitter pour de nouvelles aventures, je vous rappelle qu'un festival international de théâtre s'inaugure demain, vendredi 16 mars, au TJP de Strasbourg. Vous savez, ce théâtre rue de l'Abreuvoir. Si vous n'avez pas en tête mes précédentes interloperies sur cet événement, j'ai 30 secondes pour vous raviver la mémoire. 14 pays, 27 compagnies, 73 représentations, ça ne vous dit rien ? Personne ne m'écoute. Résumé bref, questionner notre rapport au corps au moyen des marionnettes, explorer les impacts de notre société sur nos enveloppes de chair, de sang et de 70% de thé ou de café, interroger enfin la pensée humaine, le langage des mots, que l'on soit petit ou grand, le TJP nous offre tout ça en une semaine de festival théâtral. Nous restons à l'Est, mais de la France cette fois-ci, puisque nous serons à Strasbourg entre le 16 et le 24 mars. Enfin, si les cours ne nous retenaient pas ici, madame et moi. Et notre affection pour les mouflons de Zoé.
Oui, l'Est, dont la marionnette fait partie d'un certain folklore d'ailleurs. Bah Sarah, il est bien vaste ton Est.
Eh bien écoute, je ne sais pas quoi répondre à cette pique écrite par moi-même sur ces doutes cartésiens. Bonne soirée chers auditeurs, et à très vite, enfin, du moins moi je vais me taire et puis je vais laisser parler Léa quoi.
Oh.
Il serait temps.
On n'attendait plus que ça.
Je me sens bien prosaïque. Sarah.
Non mais, tu disais la semaine dernière que tu attendais impatiemment la réouverture de deux musées à Lyon. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller ?
Oui, alors pas tout à fait à Lyon, mais juste à côté, à Villeurbanne, parce que je suis allée à l'IAC.
L'IAC, c'est l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne. C'est quel type d'endroit ?
C'est un lieu qui me semble assez appréciable parce qu'on peut y fréquenter des œuvres dans une certaine proximité. On est assez loin d'une muséographie qui se voudrait didactique, qui installerait une forme de mise à distance par le parcours balisé, par les cartels. Non, là, on a en tout cas dans presque toutes les expositions que j'y ai vues plutôt la création d'environnement avec parfois un côté presque immersif pour le visiteur. La visite, c'est donc d'abord le moment d'une expérience, qui peut laisser une assez forte empreinte. C'est aussi un lieu qui propose de prendre le temps de la réflexion. On a un espace extérieur, un espace intérieur pour bouquiner, des livres.
Et qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition actuelle ?
Alors c'est Middle Earth et elle propose une réflexion poétique sur la Méditerranée, ou plutôt sur l'idée du midi, en mettant en exergue ce qu'il peut connoter pour nous. Maria Teresa Alves et Jimmy Durham, qui sont les artistes et commissaires pour cette exposition, mettent à distance l'idée des expositions ethnographiques en proposant des espaces qui baignent le visiteur, qui est invité à s'asseoir, à écouter, à goûter certains mets, pour l'accompagner dans un questionnement sur les territoires. Le visiteur est pris dans un réseau d'allusions qui peuvent se faire graves ou en tout cas grinçantes. Par exemple, une des salles est consacrée à la pourpre et au murex, donc l'animal dont elle est extraite. Et on a une inscription indiquant que plus la teinture de la pourpre vieillit, plus elle est éclatante. Et ça jouxte une photographie de la reine d'Angleterre. Alors, j'ai interrogé Charlotte Morel, chargée des publics à l'IAC, sur son sujet. À son sujet.
Il y a un côté effectivement critique, je pense, qui n'est pas forcément revendiqué, mais qui est plus ou moins assumé quand même par les artistes. D'avoir choisi cette photographie-là de presse, cette coupure de presse, c'était un peu piqué, un peu au vif, la société contemporaine. Et de mettre aussi en rapport cette icône royale, qui n'a plus vraiment de rôle actif au sein d'un pays et d'un gouvernement. Et le mettre à côté du murex et de ces grandes teintures pourpres, justement, c'était un peu revenir sur l'empire colonial, sur la prédominance de grandes puissances. Et le murex est un symbole très fort pour Jimmy Durham et Maria Teresa Alves de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la nature humaine, de pousser le raffinement jusqu'à la cruauté, en fait, d'obtenir une teinte absolument envers et contre tout, pouvoir teinter des vêtements royaux, rapprocher ces petits coquillages tout simples, tout vulnérables en fait de la figure de la reine. Je pense que c'est vraiment une manière de faire dire aux objets ce que eux ne disent pas textuellement.
Faire dire aux objets donc ce qu'ils ne disent pas textuellement. L'IAC, c'est à deux pas de la gare Pardieu et on peut voir Middle Earth jusqu'au 27 mai. On pourra également écouter un entretien plus complet avec Charlotte Morel dans le prochain Transversar.
Et ensuite, Léa, tu nous proposes une sortie théâtre. On va où ?
On va au Théâtre des Célestins. Il y a une pièce qui, ces derniers temps, a pas mal attiré notre attention à Transistor. Elle s'appelle Tristesse. Alors, en lisant le pitch, on pourrait se dire que la pièce porte bien son nom. Une dirigeante d'extrême droite, de retour sur son île natale au Danemark, décide de monter un studio de cinéma de propagande dans ce village où il ne reste plus que 8 habitants. Chaque sujet est impliqué dans une affaire compromettante et se soumet à la volonté du parti. Et deux adolescentes tentent de résister.
Mais on est en plein polar nordique.
Exactement, et ça fait partie des codes qu'utilise l'auteur de cette pièce. Mais je crois que pour autant, ce n'est pas la tonalité générale, car on m'a aussi parlé de cette pièce qui a été un succès à Avignon comme d'une pièce très drôle. Alors on écoute Sarah Seignobosque, assistante mise en scène.
l'autrice du spectacle qui écrit et met en scène et interprète aussi Martha Heger, la dirigeante politique, aborde toujours ses personnages avec beaucoup d'humour. Elle part toujours de personnages qui sont faibles en situation d'échec, mais c'est toujours des personnages très attachants parce que c'est des personnages qui sont en quête de reconnaissance ou d'amour. Elle va toujours utiliser des codes de jeu qui sont proches de ceux de la comédie, mais aussi dans la manière qu'elle a d'écrire l'histoire. Elle va nous présenter par exemple des situations qui sont en apparence banales, mais qui en fait sont poussées jusqu'à leur extrême. Et le fait que ces situations soient poussées jusqu'à leur extrême va provoquer le rire chez le spectateur, et ce rire va donc amener une forme de distance.
Donc tragique ou comique, on ne sait plus très bien à quoi s'attendre. En tout cas, c'est au Théâtre des Célestins, du 27 au 31 mai.
Bon, et la musique et le cinéma ?
Eh bah, ben, je vous propose un événement qui allie les deux et qui prend place juste à côté de nous, à l'amphithéâtre Mérieux. Vous connaissez sûrement le film d'Hitchcock, La Corde, célèbre pour ses plans-séquences, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'il n'y avait pas de bande originale dans ce film. Alors, deux étudiants du CNSMD qui se sont proposés de leur en donner une bande-son qui sera jouée par l'orchestre de l'ENS. J'ai demandé à Tom, qui en fait partie, de nous expliquer un peu quelle était l'intention des compositeurs.
Ils ont tenté de se distancer un petit peu du style hermanien habituel, puisqu'il n'y a pas de thème dans la musique, il n'y a pas de mélodie qui ressort. On est sur des choses assez dissonantes, ça frotte un peu, et c'est ça qui fait toutes les particularités, je pense, de cette composition. Et donc c'est une musique comme ça, assez lancinante, dissonante, qui appuie un peu la dimension de malaise qu'on pouvait ressentir dans le film, mais qui maintenant plus forte quoi avec la musique, alors qu'à la base c'était peut-être une tonalité un petit peu plus comique.
Bon, alors j'ai voulu tenter la fonction enlever le bruit sur Audacity, ça fait une voix de robot, c'est intéressant. En tout cas, ce sera le 26 mars en Mérieux.
Et Léa, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un scoop, qu'est-ce que c'est ?
Oui, on m'a dit quelque chose dans l'oreillette, et qu'est-ce qu'on entend ? C'est Massive Attack. Alors je rajoute donc à notre journal ce petit scoop, le programme des Nuits de Fourvière vient de sortir et on pourra voir plein de gens géniaux. Alors comme on peut pas tous les citer, bah je cite ceux que je préfère, Massive Attack et MGMT. Et puis citons aussi Jack White, citons les Arctic Monkeys et puis Jane Birkin avec l'Orchestre de Lyon. Bon, en tout cas ça nous promet un joli mois de juillet. Les réservations commencent demain à 14h en ligne.
Merci beaucoup Léa et Sarah pour votre journal de la culture. Et après un petit indicatif pour que François-René ait le temps de s'installer, on se retrouve pour le sport.
Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et rebonsoir François-René.
Et rebonsoir Rémi.
Alors, ton micro était... Décidément aujourd'hui, la régie ne veut pas que tu parles, François-René. Allez, c'est parti pour En sueur. Ouais.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas peur de prendre ! Pas peur de prendre !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
La traverse.
Cible ! Go !
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Alors, de quoi tu nous parles ce soir, François-René ?
Oui, bah, je vais vous parler d'un petit peu plusieurs choses. D'abord, plutôt des mauvaises nouvelles, je dois dire, pour la France, qui est en deuil. Le PSG, enfin, la capitale en fait. Les Marseillais sont très contents. Le PSG est éliminé sans gloire de la Ligue des Champions, laminé à domicile 2-1 par le Real Madrid. Alors je vous avais parlé du match aller. Est-il vraiment besoin de s'attarder sur le match retour, à part pour dire que l'équipe parisienne s'est encore fait taper en huitième de finale, et que malgré Neymar, malgré Mbappé, malgré les Qataris et malgré le Paris est magique, bah Paris tarde toujours à être magique dès que l'on passe à l'échelle européenne. Alors ensuite un peu de tennis. Marion Bartoli, qui reporte son comeback, blessée, elle déclare forfait pour le tournoi de Miami fin mars. La dernière française vainqueur de Grand Chelem sort de 3 ans de retraite avec des pépins physiques, au genou, à la hanche, qui laisse les fans un peu sceptiques sur ce retour. Alors rejoindra-t-elle ces si nombreux sportifs et ces si nombreuses sportives qui, ayant du mal à se passer du frisson de la compétition et des paillettes, ont fait des comebacks ratés, beaucoup le croient, même s'ils espèrent recevoir un démenti. Et le troisième de la triade, cette fois en boxe, Tony Yoka, a des soucis avec le
dopage. Le champion olympique poids lourd est menacé de suspension pour ne pas s'être présenté à 3 tests antidopage. La fédération française l'avait condamné simplement à une suspension avec sursis. Mais aujourd'hui, l'agence française de lutte antidopage a annoncé qu'elle prenait en charge le cas Yoka. Tiens, j'ai... belle allitération. Et l'addition risque de se corser pour lui. Pas de quoi arranger le français à qui les amateurs de boxe reprochaient déjà de n'affronter que des adversaires trop à sa portée et de seconde zone qui sont battus en un ou deux rounds. Bref, la route vers le titre de champion du monde est encore longue et la route vers le niveau que ça suppose est encore long, notamment pour affronter la nouvelle terreur des poids lourds, Anthony Joshua, le britannique, qui lui affronte à chaque fois les meilleurs du monde. Enfin, mais je ne veux pas terminer sur une note trop négative, et je rappellerai quand même qu'on a gagné en rugby. Oui, vive la France, que c'est bon, a dit titré l'équipe. Et c'est d'autant meilleur que ça a failli faire très mal, puisqu'on a quand même failli se faire battre. Menacé d'un essai à la dernière minute, mais grâce à Bastaro qui est intervenu dans les rocks, Léa me semble très très concernée, oui. Très heureuse. Eh bien, nous avons subtilisé la balle à la dernière minute et nous avons gagné 22 à 16.
Comme quoi, on est toujours sauvé par les rugbymen, comme on les appelle, par chez moi. On salue au passage Eva, qui n'a pas de rapport particulier avec les rugbymen, je crois, mais dont on m'a dit qu'elle nous écoute. Alors, saluons-la et on passe immédiatement aux sciences avec, une fois n'est pas coutume, Félix. Bonsoir, Félix.
Bonsoir, Rémi.
Pas trop mal de traverser la vitre comme ça?
Non, je suis de l'autre côté du miroir un petit peu.
Allez, c'est parti. Air-conditioned bunker
where the Norwegians have stored heritage. Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors, le sujet de ce soir, c'est qu'il semblerait que des physiciens aient réussi à créer des molécules de lumière.
En effet, Rémi, puisque si on se pose la question de quoi est constituée la lumière. Le débat naît au XVIIe siècle et l'on voit s'affronter Huygens, qui pense que la lumière est une onde, comme le son par exemple, et Newton, qui pense que la lumière est constituée de minuscules corpuscules. Le débat semble clos lorsque Thomas Young réalise pour la première fois une figure d'interférence avec de la lumière. La lumière est donc bien une onde. Les succès remportés par la théorie ondulatoire s'enchaînent, et le temps de Maxwell et de ses équations de l'électromagnétisme en est l'apogée. Mais en 1905, Einstein montre que l'effet photoélectrique, qui est l'émission d'électrons par un métal illuminé par de la lumière, mène à une quantification de l'énergie de la lumière. La lumière est donc aussi constituée de particules baptisées photons, dont l'énergie est quantifiée. Cette dualité onde-particule a ensuite été démontrée par de nombreuses expériences. Les photons constituant la lumière sont de masse nulle et sont connus pour ne développer aucune interaction entre eux. Ils ne sont sensibles qu'à la masse des objets. Et cependant, des physiciens américains ont réussi dans une expérience à apparier des photons.
Comment ont-ils réussi une telle prouesse, Félix ?
Eh bien, les chercheurs ont réalisé un nuage de rubidium gazeux.
C'était donc si simple.
Il suffisait de le dire. Donc ce nuage qu'ils ont ensuite refroidi à quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Ils ont ensuite envoyé une impulsion laser ultra brève à travers ce nuage, et ainsi, seule une dizaine de photons ont été produits. Puisqu'en traversant le gaz, les photons se sont ensuite associés au sein des atomes du rubidium, ils sont ressortis sous forme de paires et de triplets de photons. Cet exploit confirme un des résultats de la théorie quantique des champs, qui décrit comment les particules élémentaires se comportent dans des champs électromagnétiques. Cette théorie prédit en effet que les photons peuvent se regrouper, mais également qu'ils ne peuvent le faire qu'au sein d'atomes lourds. Bien plus que ça, la théorie prévoit également que les photons peuvent se repousser. Évidemment, les Américains ont rapidement pensé à faire des abats laser. Mais de manière plus réaliste, l'attraction entre photons semble plus intéressante.
Et quelles pourraient être les applications de ces résultats à part les sabres laser.
L'agrégation de photons semble intéressante.
Encore l'agrégation. Elle est partout, celle-là.
Elle est partout. Mais cette fois, c'est des photons et pas des informaticiens.
Poursuivez.
Donc les photons, leur agrégation semble intéressante dans le domaine des télécommunications. Parce que s'il est difficile de produire un photon seul, les regrouper pour transmettre des petits paquets de photons contenant chacun une information semble plus simple. De plus, il faut savoir que les photons se regroupent car ils sont soumis à une force. Et qui dit force dit énergie. Casser ces agrégats permet donc de récupérer de l'énergie, plus que ce qui est nécessaire à leur formation. Je pense que tu me suis, Rémi.
Mais tout à fait.
Vous connaissez les physiciens de cette conclusion. Les physiciens de cette conclusion, il n'y a qu'un pas à dire que cela constitue la source d'énergie de l'avenir. Mais cela est peu probable. En effet, le rubidium est un élément rare sur Terre, et seuls quelques autres éléments non moins rares pourraient convenir. Ces résultats expérimentaux sont en tout cas une bonne première vérification de la théorie quantique des champs, dont les applications en physique sont très vastes.
Merci beaucoup Félix, et puis on remercie bien sûr Pierre qui a grandement contribué à la rédaction de cet édito scientifique que tu nous as lu ce soir. Finalement, vous faites une bonne équipe, hein, deuxième collaboration du genre. Merci beaucoup donc Félix pour cet édito scientifique qui éclaire un petit peu la nature de la lumière pour nos amis littéraires dans ce studio. Et pas d'ondes courtes ce soir, toujours pas. J'avais presque commencé à en écrire un, je vous promets, chères auditrices et chers auditeurs. Mais malgré tout, on ne peut pas se quitter sans une petite suggestion d'écoute pour quand vous aurez terminé cet amplifié, ce qui malheureusement ne saurait tarder. Et le podcast de cette semaine est une création magnifique de Laurent Polleret et Céline Duchesnay, diffusée le 14 février sur France Culture, dans la non moins magnifique émission Création On Air, dont nous devrions d'ailleurs rencontrer la productrice à l'occasion de la prochaine journée de la radio. Et je vois Maë qui sourit de toutes ses dents en régie, oui. La pièce s'intitule « La ligne fantôme » et nous emporte pendant une journée dans les profondeurs du métro parisien et ses mystérieuses stations fantômes. Ces stations fermées, déplacées ou bien jamais ouvertes, certaines même pas terminées, où soudain un bout de voie s'ouvre sur un quai désert et un microcosme fantomatique, fascinant pour l'imagination et bien sûr pour les oreilles.
Un ami me parle de la station Porte Molitor. Il me dit qu'on peut y accéder par le tunnel, la station Michel-Ange Molitor. La ligne 10 passe d'un côté, et il y a une voie de garage sur ce quai de Michel-Ange Molitor. Je descends dans le tunnel, aucun risque qu'un métro arrive, vu que ce n'est pas la ligne de service. Il tourne sur la droite, et là un embranchement. Sur la gauche, on m'a indiqué que c'est ce tunnel qu'il fallait prendre. Je l'emprunte et assez vite, la voie unique se sépare en deux et on devine qu'il y a un quai derrière. J'emprunte une des deux voies.
Voilà, à écouter la nuit dans les transports en rentrant chez vous, effet garanti, et vous retrouverez bien sûr le lien vers cette émission sur la page de la nôtre et puis sur nos réseaux sociaux. Et à 20h56 sur Transistor, il est temps de se souhaiter une bonne soirée. Voilà, c'était le journal radiophonique amplifié sur Transistor, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Maë Burla, François-René Julliard, Robin Lenoir, Léa Jussot, oui, Sarah Andria, et puis Pierre Félix Barancy, oui, je n'ai pas mes notes cette semaine, et Pierre de Dieu qui nous assistait pour le billet scientifique. En régie, nous avions Félix Barancy et Maë Burla. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, et puis nous avons fait une tentative de live tweet de cette émission, on va bien voir ce que ça donne. Sachez qu'il existe un Twitter @transistor, la prochaine fois c'est dans 2 semaines, la fois d'après c'est dans très longtemps, mais entre-temps il y aura la journée de la radio, tenez-vous au courant sur transistor.fr.